Ce qu'on entend, c'est un concerto de Handel qui a été enregistré par Radio-Canada, l'éditorium du Plateau, en février 1958. Ce qui est étonnant dans cette chose-là, car c'est étonnant, à l'époque, Radio-Canada archivait pas les concerts. Enregistrait, parfois, souvent même, enregistrait les concerts, mais ne les archivait pas. Or, il y a quelques enregistrements qui se sont rendus, c'est quasiment un miracle, jusqu'à George Nicholson, vous connaissez, ancien animateur à ICI Radio-Canada, qui est musicologue, et qui aime beaucoup, beaucoup fouiller et trouver des choses, et l'histoire de ces concerts inédits, vraiment inédits, là, de Radio-Canada, ça vaut le détour. Bonjour, George Nicholson.
Bonjour, René, comment allez-vous?
Moi, je vais très, très bien. Vous aussi, je sais, car on a méméré un peu avant d'enregistrer. Ces enregistrements ont fait surface de façon vraiment surprenante. Racontez-moi.
C'est un peu un petit miracle et qui, je sais pas si vous avez lu Le Devoir samedi dernier, Christophe Huss faisait le panégyrique d'un restaurateur sonore en le comparant au meilleur au monde et en disant que finalement c'était lui qui était le meilleur. Et c'est mon ami Yves Saint-Laurent que je connais depuis 25 ans. Et c'est un type qui a une oreille absolument formidable. Et donc, Christophe Huss le connaissait, en avait déjà parlé dans Le Devoir, et il reçoit un message de Huss qui lui disait « Écoute, il y a un monsieur qui a une boîte de bandes magnétiques, et puis il veut s'en débarrasser, et moi, je sais pas trop quoi en faire, écoute, va donc voir ce que c'est. » Alors, Yves est allé chez le monsieur, et le monsieur lui dit « Mon père collectionnait, mon père enregistrait des concerts de la CBC, de Radio-Canada, donc, et puis, là, ma femme me dit « Écoute, n'écoute plus ces bandes-là, c'est fini. Alors pourquoi tu mets pas ça aux poubelles? Alors plutôt que de les jeter aux poubelles, il les offrait à Huss, qui les a passés donc à Yves Saint-Laurent. Et Yves Saint-Laurent m'appelle en disant, écoute, il y a ça, viens avec moi pour essayer de passer à travers tout ça. Et bon, le monsieur avait mentionné qu'il y avait du Bernstein, qu'il y avait différentes choses. Et là, je vois Montréal, Igor Markevitch, Montréal, Rostropovitch, Montréal, Leon Fleischer, Montréal, Charles Munch. Et là, je deviens absolument fou. Je fouille dans les archives de Radio-Canada. Il n'y a rien. Ils se sont bel et bien... On entend l'annonceur. Donc là, on ne peut pas se tromper. C'est pas un pirate, un faux pirate. On entend l'annonceur qui dit « And now Mr. Markevitch walks on the stage of le plateau, etc. » Et là, enfin, c'est un peu comme de trouver le Saint Graal. J'exagère un peu, je sais. Là. Mais c'est de penser que le seul témoignage que nous ayons de l'OSM qui a été au plateau de 1935 à 1963, le seul témoignage que nous ayons était dans cette boîte qui a été sauvée par cet homme qui a pensé à les proposer à Huss, qui lui les propose à Saint-Laurent, et moi je vous les propose aujourd'hui.
Oui, mais vous dites de ce Saint-Laurent, qui n'est pas le Y Saint-Laurent que l'on connaît, le couturier, mais vous dites de lui qu'il fait de la haute...
C'est le même nom, mais lui, Saint-Laurent, le couturier s'appelle S-A-I-N-T. Le Saint-Laurent dont je vous parle, il s'écrit S-T, et Laurent.
Ah, voilà la différence, mais il fait, dites-vous, de la haute couture sonore. Comment vous décririez ça, la haute couture sonore?
C'est-à-dire que Yves Saint-Laurent, enfin le nôtre, si j'ose dire, a commencé à s'intéresser. D'abord, c'est un fanatique du pianiste Sviatoslav Richter. Je pense que même ce que Richter n'a pas enregistré, il l'a trouvé. C'est la collection la plus complète au monde. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, parce qu'il y avait un colloque Richter, on s'était rencontrés là. Et là, peu à peu, il a ouvert son spectre de plus en plus à d'autres pianistes, à d'autres orchestres. Et il s'est tout à coup intéressé aux 78 tours. Et là, de prendre différents types d'aiguilles, de mettre un différent poids, il y a des 78 tours qui sont enregistrés à 80 tours, 82 tours, etc. Et de tout, de recentrer les disques pour ne pas que ça sonne faux, enfin, il a développé tout un art absolument, mais fascinant, d'aller chercher dans les sillons la musique qu'on y avait enfouie. Et ouais. il a une oreille telle qu'il prend les mêmes disques que les autres ont fait. Il y a des gens qui gagnent leur vie depuis toujours avec ça. Et lui arrive à garder toutes les harmoniques. Et bien sûr, il y a un fond sonore plus important que quand on met un filtre tout court. Mais il a cette oreille d'aller chercher la musique au-delà des bruits. Alors finalement, on n'entend plus les bruits, on n'entend que la musique.
Mais c'est absolument formidable. Mais à l'éditorium du plateau, moi, j'en ai un souvenir d'enfance parce que Wilfrid Pelletier donnait, quand j'étais petit, des concerts, les matinées pour la jeunesse, et c'était absolument étonnant. Donc, je me souviens très bien de cet auditorium-là, mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Parce que l'OSM, il jouait, il donnait des concerts. Est-ce que c'était, moi c'est loin dans ma tête, est-ce que c'était potable? Est-ce que c'était supportable en termes d'environnement sonore pour reproduire ça? Pour faire des concerts là?
Ben, écoutez, ce sont des salles qui n'ont pas été conçues pour de la musique symphonique. C'était un peu petit, donc le son saturait facilement. Et non seulement il saturait au sens où tout à coup ça devenait trop fort, mais en plus l'acoustique était sèche. Donc le son voyageait mal. Il n'y avait pas